Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier, Madame Bébéard, Monsieur Caillé, pour cette invitation. Alors, quand j'ai reçu le premier mail où on m'a demandé, on annonçait le thème de la médecine au féminin, c'est vrai que moi, j'ai pas du tout entendu féminisation de la médecine, comme ça a été déjà développé et ça va l'être encore dans ce cycle de conférences. Mais moi, j'ai plutôt entendu, alors certainement parce que c'est plutôt mes objets de recherche, médecine des femmes et médecine pour les femmes. Et puis, bon, voilà, comme je travaille sur ces questions de santé génésique et reproductive, et que même les travaux sur le cancer que j'ai réalisés portaient plutôt sur des cancers de type féminin, finalement, voilà pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce thème-là ce soir. Alors, la communication que je vais faire ce soir est tirée donc de ce travail de thèse qui portait beaucoup plus largement donc sur l'expérience de la grossesse et de l'accouchement en France. Et pour ce travail, pardon, il faut peut-être que je fasse avancer mon PowerPoint. Pour ce travail, la problématique était double. D'une part, moi, je voulais savoir comment la médicalisation de l'expérience maternelle était intervenue sur le vécu des femmes. Ça, c'était la première question. Et puis, deuxièmement, je voulais voir comment, dans l'institution hospitalière, les professionnels de santé, donc essentiellement ici les obstétriciens et les sages-femmes, élaboraient leur propre représentation sociale de la naissance. Et comment ils intégraient dans leur pratique ces représentations et venaient orienter l'expérience des femmes. Donc le questionnement central, c'était bien celui-là, de s'interroger sur comment, dans la rencontre entre les femmes enceintes et les professionnels, se construisait une définition sociale de l'enfantement. Alors la méthodologie, je passe très rapidement, elle était plutôt de type qualitatif, avec un travail d'observation et d'entretien. Simplement pour préciser le terrain, il s'est réalisé sur les trois niveaux de maternité que l'on connaît aujourd'hui, avec des services en différentes structures. Et puis j'ai réalisé aussi une enquête auprès de femmes qui avaient fait le choix d'accoucher à domicile. Alors, si j'ai choisi ce soir de vous parler de la place de la technique dans la relation médecin-parturiente, c'est parce que je voulais essayer de vous montrer que, finalement, les usagers pouvaient tout à fait s'emparer des techniques et les déplacer, c'est-à-dire les déplacer de leur usage premier. Et puis, deuxièmement, je vais essayer de vous montrer aussi, finalement, comment les médecins peuvent répondre à ce détournement de la technique opérée par les femmes. Alors, pour commencer, on peut dater très rapidement le processus de technologisation du système de santé avec la médicalisation de l'hôpital qui a débuté dès la fin du XVIIIe siècle. Et donc, on peut dire que c'est vraiment un des aspects forts de cette modernité qui correspond à cette longue période de l'histoire qui va être dominée par l'idéologie du progrès et qui valorise la maîtrise de la nature par le recours à la connaissance scientifique et technique. Plus récemment, beaucoup plus récemment, dans les années 80, on va noter un recours croissant des établissements hospitaliers dans les équipements biotechnologiques. Et d'ailleurs, on sait très bien que la population, d'une façon très générale, accorde une valeur symbolique très forte au plateau technique que ces établissements hospitaliers peuvent offrir. On verra d'ailleurs que ça peut orienter même les femmes vers le type de maternité. On sait aussi, par ailleurs, que le développement de cette technique, de cette technicité, a profondément modifié la pratique médicale et va lui donner, on reviendra aussi sur cette notion, une autorité incontestable. Alors, les théories de la sociologie de la santé, mais aussi de l'innovation, qui travaillent notamment sur le processus de diffusion des techniques ou de leur appropriation par les acteurs, va constituer donc un support de l'analyse. Je vais essayer de voir donc comment les patientes vont par divers mécanismes s'approprier la technique pour essayer d'en faire la leur. Il est clair, et la sociologie des sciences l'a bien montré, que une technique ne peut exister, ne peut avoir du succès que si les acteurs lui reconnaissent une utilité et l'intègrent comme faisant partie de leur vie quotidienne. Alors, les techniques qui entourent aujourd'hui la gestation sont de plus en plus sophistiquées, complexes, donc je ne reviendrai absolument pas là-dessus, ce, même en cas de grossesse non pathologique. Je n'ai pas précisé, mais le terrain ne portait que sur les grossesses non pathologiques. Donc, je vais essayer de voir et d'examiner comment ces techniques donc, sont proposées aux patientes, comment elles correspondent à des choix où elles sont vécues comme des contraintes par ces femmes. En fait, il s'agit d'étudier la marge de négociation possible et laissée par les soignants et l'institution hospitalière. Donc, à partir de là, hein, l'idée, c'est vraiment d'aller voir comment ces techniques sont transformées, déplacées par le jeu des utilisateurs, à la fois les médecins et les femmes, et la manière dont ces techniques vont être inscrites dans l'expérience de la maternité chez les femmes. Alors, premier point que je vais développer, c'est que si on regarde aujourd'hui le colloque singulier, hein, de quoi est constituée la relation médecin-patiente, première chose que l'on voit, c'est qu'on aurait affaire à un échange objectivé par la technique. Alors, effectivement, très tôt, hein, dès les premiers mois de la grossesse, les femmes, elles le décrivent comme ça, ont besoin d'être rassurées. Et pour cela, elles sont plutôt favorables au recours de la technologie. Alors, bien sûr, toutes sans exception, tout au long des mois de grossesse, vont passer au moins leurs 3 échographies. On va voir d'ailleurs que parfois, elles vont être amenées à en demander plus. Alors, ce besoin technologique, on peut le définir comme ça, va ressurgir directement dans l'échange médecin-parturiente. Et on va voir que ce besoin technologique, il ressurgit parce que, dès lors, eh bien, la consultation va se transformer plus en une lecture des résultats des différents examens qui ont été réalisés pendant cette grossesse. Alors, effectivement, si on observe une consultation, on voit que le temps qui est consacré à l'analyse des prises de sang, des tests d'urine, de la dernière échographie, va prendre une place prépondérante. Et d'ailleurs, on peut remarquer que l'espace de dialogue entre la femme et l'expert peut même prendre une forme exclusivement, à partir d'une discussion autour des résultats, des examens effectués à venir. Alors, voilà par exemple ce que dit un médecin que j'ai interrogé. Donc, il est dans une maternité de niveau 3. Il me dit, c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps aujourd'hui à faire le point sur les analyses et les examens. On y passe bien les 3/4 de la consultation. Le reste est pour l'auscultation et l'interrogation de la femme sur si elle va bien, tout ça, enfin si elle sent le bébé bouger. On est tellement dans la technique, et surtout ici, alors il fait référence bien sûr à la maternité de niveau 3, c'est notre base de travail, même en consultation. Donc, on voit bien comment la technique vient directement influencer la relation thérapeutique. Comme le dit Castel, finalement, aujourd'hui, l'examen du patient tend à devenir l'examen de ses dossiers, tels qu'ils ont été établis dans des situations d'ailleurs diverses, par des professionnels différents, souvent qui n'ont aucun rapport entre eux, si ce n'est par l'intermédiaire donc de la circulation du dossier. Le moment synthétique du diagnostic n'est plus la relation concrète avec la personne malade, mais le rapport établi entre ces différentes expertises. Donc, on pourrait dire que la technique devient le support de la communication dans la relation médecin-patient. Notons cependant, et ça c'est particulièrement important, je vais insister là-dessus, peut-être à l'inverse de ce qui a été dit jusqu'à présent sur l'effet de la technique, que du côté du médecin comme du côté de la patiente, ce type d'interaction, donc basé sur l'instrument technologique, rassure et confirme que chacun des acteurs poursuit bien le même objectif pour lequel ils sont présents, le bon développement du fœtus, le bon suivi de la grossesse et de l'accouchement. Donc, si la technique a transformé le contenu de la relation, on voit aussi qu'elle est intervenue sur sa forme. Effectivement, aujourd'hui, l'examen technologique du corps a tendance à déplacer le regard du corps réel vers le corps, ou en tout cas l'organe plutôt représenté, imagé. effectivement, et ça peut-être on l'observe encore plus lors des échographies, hein, tous les regards se tournent vers l'écran. Je me souviens par exemple d'un père, d'un futur père qui disait « Eh bien, allons regarder la télévision ». Donc tous les regards sont tournés vers l'écran, tout comme ils le sont de plus en plus lors de l'accouchement, par exemple, aussi vers le monitoring, hein, qui devient une façon d'exprimer ce qui se passe dans le corps, faisant en fait de la femme et de son corps, entre la femme et son corps, un relais, hein, entre l'intérieur et l'extérieur. Alors, l'échographie, le monitoring sont peut-être les techniques, hein, qui représentent le mieux cette idée aujourd'hui. Les femmes, d'ailleurs, souvent disent ne pas avoir eu le sentiment, hein, que le fœtus qu'elles apercevaient sur l'écran, certaines disent, elle ne semblait pas être dans mon ventre. Hein, donc, il y a vraiment un décalage entre l'image perçue et, effectivement, l'image réelle. Et beaucoup, d'ailleurs, ont eu le sentiment d'avoir vécu ces examens comme quelque chose qui ne les concernait pas. Alors, par exemple, hein, j'ai mis quelques extraits d'entretien. Donc Brigitte, qui construit dans une maternité de niveau 3, qui dit « l'échographie, c'est du contrôle, c'est moins intéressant pour nous ». Ou encore « l'échographie, c'est plus professionnel que c'est plus pour les professionnels que pour nous ». Pardon, il y a une petite erreur. « Ça sert à eux pour voir si on est dans les normes, on parle chiffres, pour nous c'est du chinois ». Elle nous dit « là, c'est un rein ». Nous, on dit oui parce qu'on ne sait pas trop. Et pourtant, malgré tout, même s'il y a ce décalage, hein, entre l'image perçue et la réalité, la confiance dans les techniciens est plutôt très forte, hein, chez les enquêtés que j'ai rencontrés. Il est vrai d'ailleurs, peut-être plus que dans la consultation avec le gynécologue obstétricien, l'examen échographique suppose une grande distance entre savoir expert et savoir profane. Donc, dans la consultation... si effectivement dans la consultation par exemple avec le gynécologue obstétricien, d'autres éléments peuvent intervenir, hein, comme l'expérience de la femme, le fait qu'elle a acquis un savoir avec des lectures, etc. Et ce savoir-là peut venir finalement rétablir un équilibre dans l'échange entre le professionnel et la patiente. Ici, le technicien et lui seul, hein, possède le pouvoir de traduire l'image. Donc, cette compétence spécifique, hein, vraiment lui permet de dominer la situation, et vraiment son interprétation de la photographie va fonctionner comme autorité. Alors, les médecins eux-mêmes, sous d'ailleurs la pression du médico-légal, mais aussi parce que pour les nouvelles générations, hein, je reviens sur ce point-là tout à l'heure, le recours aux techniques fait partie intégrante de leur apprentissage, eh bien, on voit qu'ils sont aujourd'hui assez dominés par cette idée de pouvoir des technosciences. Avoir un graphique, hein, une image, une mesure statistique donne un sentiment de contrôle de la situation. Alors, par exemple, un médecin, hein, vous voyez, un jeune interne qui me dit « c'est clair qu'aujourd'hui, hein, discuter avec un couple sur des probabilités, comme pour le HT21, par exemple, ça fait beaucoup plus sérieux qu'il y a 30 ans où on ne savait rien ». Donc, il y a vraiment cette idée, hein, que la technique est vectrice de légitimité. Alors, pour de nombreux auteurs, et je vais essayer de prendre la perspective plutôt inverse, hein, la technique, en centrant la relation femme-médecin sur l'examen du corps, serait plutôt venue appauvrir l'expérience de la maternité. La technique aurait réduit finalement la grossesse au biologique et aurait évacué toutes les autres dimensions de l'expérience. Alors, il est vrai que la médecine occidentale moderne, hein, ça a été dit par plusieurs auteurs, notamment par la multiplication des spécialités et par le développement des biotechnologies, a eu tendance à découper le corps de l'individu, et elle l'a découpé d'ailleurs pour mieux pouvoir le classer dans des catégories de symptômes, de patients, et aussi pour pouvoir l'appréhender en termes de facteurs de risque. Cependant, si la relation, hein, donc avec l'introduction de ce type de technique, a pris une nouvelle forme, on voit bien effectivement que la technique est devenue centrale pour communiquer. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce que je vais essayer de défendre, c'est que aujourd'hui, si cette situation existe, c'est bien sous l'influence conjuguée des deux acteurs. C'est bien parce que les médecins et les femmes attendent la présence et le recours à cette technique. D'ailleurs, hein, toutes, quand je leur ai posé la question, pour celles bien sûr qui ont choisi d'accoucher à la maternité, pour elles, il n'a jamais été question, il ne sera jamais question d'un quelconque retour en arrière. Pour elles, elles me disent très clairement, je les cite, il n'aurait jamais été possible d'enfanter sans toutes ces machines. Donc, il y a bien cette idée hein, de femmes qui sont aujourd'hui totalement acquises à la présence de la technique. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que, les femmes et les médecins vont se retrouver autour d'un objectif commun, hein, qui est l'objectif de l'enfant parfait. Alors, cette idée est très, très présente, hein, à la fois chez les patientes, mais aussi chez les médecins. Alors, bien sûr, chez les médecins, elle apparaît de façon récurrente, associée, encore une fois, à la question du médico-légal. C'est-à-dire que, finalement, derrière cette demande de parents, hein, l'enfant parfait, qu'ils reconnaissent par ailleurs comme légitime, hein, ce qui est questionnant pour les médecins, c'est plus la perte de leur autonomie qui est en question, et on verra comment ça peut leur poser, effectivement, ce type de questionnement. Mais il y a bien l'idée que, si le patient peut aujourd'hui lui-même contester l'expertise, demander des comptes, la définition même de l'activité médicale comme profession hein, est directement remise en cause. Alors, les patientes, hein, je l'ai dit, elles souhaitent donc tout le temps, tout le déroulement de la grossesse, elles souhaitent être rassurées sur la normalité de l'enfant. Et une bonne consultation échographique doit toujours se terminer, et ça, ce sont des extraits d'entretiens de femmes hein, qui me disent « c'est parfait, il a tous ses membres » ou « il est parfait » ou encore, et vous voyez là comment les femmes se réapproprient d'ailleurs le discours médical, « il est juste moyen, à peine inférieur à la moyenne de sa catégorie, hein, donc pour moi, il est parfait ». Or, bien sûr, et notamment dans le travail échographique, l'erreur de diagnostic est possible. L'erreur de diagnostic est possible, et ce, d'autant plus quand elle repose sur l'analyse d'une image. Alors, bien sûr, cette expertise technologique, elle comporte une partie professionnelle, mais elle suppose aussi une partie profane. Et l'interprétation donc, de la photo peut être différente d'un technicien à un autre, selon son expérience, sa formation, mais aussi sa capacité à voir l'œil, hein, comme on dit dans le jargon médical. Alors, le technicien, donc, et c'est ça qui est attendu par les femmes, s'il a fait intervenir sa part profane dans la lecture de l'image, par contre, hein, il devrait pouvoir être dans l'idéal totalement interchangeable, c'est-à-dire que j'aille voir l'un ou l'autre, il doit être capable de poser le même diagnostic. Et donc, alors vous voyez que précisément, c'est le caractère parfois impersonnel hein, qui est mis en question par les femmes dans la relation à l'obstétricien. Ici, au contraire, les femmes attendent précisément de l'échographiste parce que toute sa compétence repose sur la technique, qu'il place au centre de la consultation les résultats rationnels et scientifiques. Hein. Donc ici, c'est ça qui apparaissait intéressant. Les femmes, dans leur relation à l'échographiste, hein, attendaient non pas une relation particularisée ou personnalisée comme elles pouvaient l'attendre de l'obstétricien, mais elles attendaient de voir un professionnel qui ne pourrait faire aucune erreur. Alors voilà ce que disent par exemple des femmes. Hein, elles disent « L'échographiste, il doit nous dire si tout va bien, on vient pour ça ». Après, s'il est sympa, tant mieux, mais bon, nous, on vient surtout pour être rassurés. J'aime bien les échographies parce que ça rassure et on voit le bébé, mais justement, à la deuxième, je me suis rendu compte que c'était hyper médical. Là, j'ai pris conscience que ce n'était pas seulement un moment d'amusement. L'échographiste, d'ailleurs, a fait ça très bien, très pro. On voyait qu'il ne fallait pas le déranger en posant des questions. Donc là, la femme se rend compte qu'effectivement, on a bien affaire à un expert qui maîtrise une technique. Alors, bien sûr, le problème, c'est que l'erreur, parfois, est possible, mais si elle est possible, elle est totalement inacceptable hein, pour les femmes rencontrées, précisément parce que les progrès de la science et les progrès des techniques ont supprimé la possibilité d'erreur de l'inconscient collectif. Hein. Donc, il y a vraiment aujourd'hui l'illusion hein, qu'on dépiste tout, qu'on contrôle tout, et qui va venir alimenter cette idée d'enfant parfait, bien normé, bien calibré. Alors, les avancées, bien sûr, en termes de diagnostic anténatal, aujourd'hui, hein, rendent toute malformation, tout handicap totalement intolérable. Et d'ailleurs, les couples disent comme cela, ils se sentiraient trompés, floués, si une anomalie apparaissait alors qu'elle n'a pas été diagnostiquée lors des échographies. Voilà par exemple ce que dit une parturiente. Elle me dit, on est venu voir quelqu'un ici exprès, hein, elle me parle de cette maternité de niveau 3, quelqu'un de compétent, donc peut-être qu'on ne devrait pas, mais on ne lui donne pas droit à l'erreur. Je le reprocherai, deuxième patiente qui dit, je le reprocherai si on découvre quelque chose à la fin, parce qu'elle m'a certifié qu'il n'y avait rien. Donc là, on voit que finalement, la technique évacue toute possibilité d'erreur. Donc, et là, c'est ce qui est intéressant à travers la façon dont les femmes utilisent la technique, c'est qu'on voit bien qu'à travers ces extraits d'entretien, que c'est l'individu qu'on va accuser s'il y a une erreur. La confiance en la technique n'est nullement et jamais remise en question, jamais remise en cause. On a bien cette idée qu'aujourd'hui, le médecin, qui a été érigé comme héros culturel de la modernité, finalement, aujourd'hui, connaîtrait un transfert de son charisme, son activité vers la science. Hein. Aujourd'hui, c'est ça qui est incontestable. C'est ça qui devient autorité suprême. Donc, finalement, le technicien, et même, peut-être même encore plus que l'obstétricien, est renvoyé à son propre objet de travail, il est totalement confondu avec sa machine, et c'est finalement, on voit que finalement c'est cette machine, c'est cette technique qui détient le pouvoir dans l'interaction, qui détient la vérité scientifique. Alors, essayons de voir maintenant comment les femmes vont répondre à cette offre technologique et surtout comment elles vont s'en emparer. Et puis, première chose dont on s'aperçoit, c'est que, eh bien, on constate une certaine disponibilité des patientes. Alors, l'histoire, mais je ne reviendrai pas non plus là-dessus, permet de retracer les différentes étapes qui correspondent à l'introduction et à l'adoption de nouveaux instruments ou de nouvelles techniques dans le suivi des grossesses et de l'accouchement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit à travers cette histoire comment très rapidement les techniques vont facilement se diffuser à l'ensemble des femmes. Alors, comment l'expliquer ? Eh bien, tout se passe en fait comme si à un moment donné, il y avait toujours une sorte d'adéquation entre leur existence et leur diffusion. Alors, comment c'est possible ? Eh bien, parce que la modernité, donc en s'appuyant sur cette idée de progrès, va favoriser ce qu'une chercheure canadienne, Maria de Coninck, appelle une mentalité technologique, qui, en fait, va instituer chez les femmes ce qu'on peut appeler une disponibilité à toute nouvelle découverte qui interviendrait dans le suivi de la grossesse et lors de l'accouchement. Donc, on a bien cette idée qu'à tout moment, finalement, de l'histoire, les femmes et les experts vont se retrouver sur ce même objectif, recourir à tout ce qui est offert par la science pour la bonne santé de l'enfant. Alors, d'ailleurs, l'ensemble des femmes que j'ai pu rencontrer durant cette enquête montrent très facilement, dans leur discours, des manifestations de cette disponibilité permanente. Alors, par exemple, quand je leur posais la question est-ce que vous accepteriez d'être déclenché artificiellement ou d'avoir une césarienne ou de subir une épisiotomie ? Bon, les femmes ne se posent pas de questions, elles sont assez unanimes. Voici ce qu'elles disent. Si c'est pour la vie de l'enfant, moi je dis oui à tout. Ils peuvent bien me faire ce qu'ils veulent pourvu que le petit aille bien. Ou encore, pour moi la question ne se pose pas, on accepte ce qu'ils disent pour le bébé. Donc, finalement, face au risque pour la santé de l'enfant, c'est toujours exprimé dans ces termes-là, d'ailleurs, toujours la santé de l'enfant, l'idée même, finalement, d'une possible négociation, de part et d'autre, de la part du médecin comme de la part de la femme, devient inconcevable. C'est-à-dire que une résistance du côté de la femme serait interprétée, au recours à la technologie, serait interprétée comme un refus d'adhérer aux valeurs collectives qui reposent sur cette normalité de l'enfant à venir. Et en même temps, de l'autre côté, le refus du médecin d'avoir recours aux dernières technologies viendrait briser hein, le rapport de confiance, parce que ce médecin, précisément, on attend de lui qu'il incarne les progrès de la science. Alors, on peut dire que finalement, ici, hein, les femmes vont fonctionner sur le modèle que Tim Stra appelle l'anticipated decision regret, c'est-à-dire que pour éviter d'avoir le moindre regret par rapport à une décision, eh bien, peu d'individus vont refuser une investigation ou un traitement, parce que refuser signifierait que l'on a peut-être laissé passer une chance. Et puis là, hein, on comprend d'autant plus ici la situation qu'il s'agit d'un enfant à venir. Donc, on pourrait dire qu'il y aurait aujourd'hui une espèce d'obligation morale, alors tant du côté des soignants que des soignés, hein, à faire appel aux progrès scientifiques, puisqu'ils sont disponibles et puisqu'ils permettent directement de réduire l'incertitude. Alors, en fait, on voit bien que les médecins, et plus largement d'ailleurs la médecine moderne, ont aujourd'hui tendance, hein, ça a été démontré, mais on va voir aussi comment on peut l'interpréter différemment, aurait tendance à répondre à l'angoisse des femmes par des examens, par des actes techniques, mais, et c'est bien ça qui est important de montrer, finalement on voit que les femmes elles-mêmes ne peuvent être totalement rassurées qu'à partir de ces preuves scientifiques. Donc, on pourrait dire que seule l'image, seul le résultat statistique tient lieu de vérité. Il n'y a que ça qui serait incontestable. Donc, on assisterait à une dépendance envers la technique. Alors, si cette attitude, et là encore, j'essaie de me positionner sur un autre, essayer de l'analyser d'une autre façon, si cette attitude, elle est souvent présentée comme des experts qui imposeraient aux femmes toujours plus de techniques, à des femmes qui seraient en incapacité finalement de négocier, je vais essayer de montrer à l'inverse que certaines patientes vont fixer elles-mêmes les règles de l'échange et la place et le sens qu'elles vont donner à cette technique. Alors, c'est ce que j'ai appelé le détournement de l'objet, puisque effectivement, ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, c'est comment ces femmes, qui sont totalement acquises à la cause de la technique, eh bien, vont la récupérer et vont imposer finalement cette technique au monde médical. Alors, ce premier détournement de la technique, on a pu l'observer notamment avec l'échographie. C'est peut-être la technique aujourd'hui qui est la plus détournée. Michel Fellows, qui a travaillé sur cette question de l'échographie il y a quelques années, très vite a pu dire comment cette technique semblait avoir totalement échappé au corps médical. Alors, en effet, dans les consultations, on voit très bien comment on assisterait à une inflation, finalement, de la demande d'échographie, qui devient plus une technique de confort. C'est comme ça, très souvent, que les médecins vont le présenter, d'ailleurs. Et quand on interroge les médecins, ils disent très facilement prescrire des échographies supplémentaires, pardon, pour, disent-ils, je reprends leurs propos, faire plaisir à la femme ou au couple, pour les rassurer. Et d'ailleurs, ils vont plus loin que ça, puisque cette technique peut souvent même être présentée par les professionnels comme un outil psychologique. Alors, par exemple, ce médecin qui me dit, de maternité de niveau 3, pour certaines, on voit qu'on ne peut pas refuser, qu'elle sera encore plus mal, donc on s'en sert facilement aujourd'hui. C'est un instrument supplémentaire à notre disposition. Alors, désolée pour l'écriture. Alors, si cette demande, aujourd'hui, notamment de d'échographie, semble être même devenue presque routinière, eh bien, j'ai pu m'apercevoir pendant cette enquête que d'autres techniques, alors comme l'amniosynthèse, par exemple, je vais y revenir, le cerclage ou la césarienne, sur laquelle je vais insister, qui présentent plus de risques que l'échographie, prennent aujourd'hui place parmi les exigences de certaines patientes. Alors là encore, tout se passe en fait comme si une fois que la technique s'était, qu'une technique s'était généralisée, donc là je parle par exemple de l'échographie, eh bien la demande, puisque celle-ci devient très accessible, eh bien la demande va se déplacer vers une autre technique pour qu'elle soit elle aussi aussi accessible. Alors j'ai rencontré quelques parturientes et plus j'allais vers la fin du travail ailleurs, plus j'en ai rencontré, qui regrettaient de n'avoir pas pu réaliser l'amniosynthèse pour être rassurée définitivement sur l'absence d'anomalie. Et donc, quand je l'ai questionnée sur le fait que la réalisation de cette amniosynthèse pouvait engendrer d'autres types de risques pour elle, et notamment une fausse couche, eh bien, elle me répondait qu'elle préférait être rassurée sur le risque de la normalité et prendre le risque, effectivement, de perdre l'enfant. Autre type de demande que j'ai pu observer, par exemple la demande de cerclage ou de césarienne. Alors, ces techniques, elles nous sont assez généralement présentées par les patientes comme un moyen de réduire tous les risques inhérents à la grossesse et à l'accouchement. Alors, par exemple, cette patiente qui, elle, voulait absolument un cerclage, qui dit la chose suivante, « J'avais tellement peur de le perdre. » Alors, elle a eu un premier cerclage pour une première grossesse. Là, pour la deuxième grossesse, il ne s'imposait absolument pas. Et pourtant, elle va l'obtenir. Elle dit « J'avais tellement peur de le perdre, comme la dernière fois. Le cerclage, c'est moi qui l'ai demandé. Heureusement, il a bien voulu me le faire. Mais c'est vrai, rajoute, dit-elle, que si je ne lui en avais pas parlé, ça ne se serait pas passé comme ça. » Alors, on voit bien que cette demande de mieux vivre la grossesse, puisque c'est ça qu'il y a derrière, ici est entendue par le médecin. Je vais essayer après d'analyser comment le médecin peut entendre ou choisir de ne pas entendre cette demande. Et on voit que là, cette demande qui est entendue quand même témoigne d'une certaine capacité aujourd'hui du corps médical à suivre cette évolution des demandes. Alors, de façon plus nette, c'est ça qui m'a le plus intéressée, j'ai pu également voir apparaître la demande donc, d'un nouveau mode d'accouchement, la césarienne. Alors, plusieurs témoignages de patientes sont formulés dans ce sens. Alors, par exemple, le témoignage de cette première patiente qui dit la chose suivante. Si la césarienne n'avait pas existé, je n'aurais pas eu d'autres enfants. Alors, je lui dis, mais si le médecin refuse la césarienne ou si vous arrivez en travail, qu'est-ce qui se passe? Elle me répond, donc elle s'appelle Chantal, si on me dit d'accoucher par voie basse, d'abord je ferai exprès de ne pas pousser, je ferai exprès que tout aille mal. Bon, alors je l'interroge, je continue à l'interroger sur les risques, notamment liés à la douleur et sur les risques éventuels de la césarienne. Et elle répond de la même façon, je sais que je vais souffrir, parce que j'ai vu les femmes souffrir après. Cette femme est infirmière et elle a exercé dans le service où elle va accoucher. Mais au moins, quand le bébé va venir, ce sera dans les circonstances normales, sans souffrance, un moment agréable. Et je sais que je vais souffrir après, mais c'est un choix, je préfère. Au moins, ça sera une ouverture, ça sera recousu, ça sera clair et net. Pour moi, elle dira plus tard, mais pour moi, la césarienne, c'est un accouchement de luxe. Alors, une autre patiente ajoute, j'ai moins peur de la césarienne que de l'accouchement par voie naturelle. La césarienne, c'est mieux, on ne souffre pas. Oui, l'idéal, c'est la césarienne, la sécurité, c'est vite fait. Alors, on voit bien que l'idée que l'acte chirurgical, là, est préférable à l'accouchement par voie basse. On voit bien ici comment les patientes, finalement, ont transformé leur peur de l'inconnu en risque. Ça devient un nouveau risque. Finalement, la césarienne deviendrait l'aboutissement du sentiment de sécurité apporté par la technique. Alors, bien sûr, et ça leur a été écrit comme ça, de fait, décrit comme ça, l'intervention, elle a lieu au bloc opératoire, tous les professionnels de santé sont là si un risque se présente, ils sont prêts à intervenir, et puis, bien sûr, l'ensemble des appareillages, des techniques sont aussi présentes. Et d'ailleurs, beaucoup de femmes m'ont indiqué que, précisément parce que lors de la césarienne, on est sûr qu'il y a un réanimateur anesthésiste ou un pédiatre, ça, finalement, c'est un privilège, elles le disent comme ça, auquel elles aussi voudraient avoir accès. Bon. Donc, pour l'analyser, on voit bien que les femmes se sont totalement emparées de l'idée, fortement présente dans le discours médical, que les risques sont bien diminués lorsque l'accouchement peut être programmé et ainsi donc permettre à tout le personnel d'être disponible. Donc, on voit bien comment les femmes, aujourd'hui, poussent le raisonnement jusqu'au bout et veulent s'assurer que l'enfant à naître va bien venir dans les meilleures conditions de sécurité existantes. Alors, pour atteindre cet objectif, bien sûr, ces femmes, elles vont mettre en place des stratégies Et notamment, eh bien, ils vont s'assurer, dès leur rencontre avec le médecin, hein, qu'il ne s'opposera pas à cette demande de technique. Alors, précisons bien sûr que ces femmes que j'ai rencontrées, qui sont dans ce type de demande, hein, je les ai plutôt rencontrées bien sûr dans la maternité de niveau 3, et c'est ça d'ailleurs hein, qui explique au préalable ce choix vers une maternité qui va leur offrir l'ensemble des technologies disponibles. Mais on voit bien, là encore, hein, que le désir omniprésent d'enfant parfait, l'obsession sécuritaire, hein, finalement, pousse ces femmes à reprendre la technicisation à leur compte pour en repousser finalement les limites. Alors, bon, maintenant, essayons de s'interroger, finalement, qu'est-ce qui se passe quand cette technique passe aux mains des profanes, hein, puisque là, on voit que les femmes s'en emparent. Finalement, est-ce que... on n'aurait pas affaire à ce qu'on pourrait appeler une acculturation, c'est-à-dire que les femmes eh bien, ont totalement intériorisé hein, l'idée de prise en charge médicalisée d'un événement non pathologique, ou encore, finalement, est-ce qu'on n'assisterait pas, hein, dans cette reprise de la technique à leur compte, à un renversement de la relation médecin-patient. Alors, il est clair que là, on peut se demander si le médecin n'a pas perdu son autorité hein, dans le colloque singulier, puisque là, son expertise, finalement, elle est ramenée à des compétences techniques hein, et non plus à ses capacités cliniques de diagnostic. Donc, la représentation hein, du rôle du médecin est totalement modifiée. Alors, le cas de femmes qui demandent le recours à ces technologies, hein, vous voyez, qui peuvent présenter des risques, même s'il reste encore mineur, hein, montre néanmoins de fortes évolutions dans la définition de l'enfantement. On voit bien ici que l'acte d'extraction hein, se substitue à l'acte d'expulsion hein, et viennent donc directement remettre en cause le cadre normatif de la consultation. Alors, eh bien, à partir de là, le corps médical il est obligé de s'adapter à ces nouveaux types de logiques individuelles et donc on va voir comment il y répond. Alors, on va voir qu'il y a deux grands types de réponses à ce type de demande. Alors, bien sûr, hein, c'est une typologie, comme toutes les typologies, hein, vous me direz, eh bien moi, je connais quelqu'un qui se situe plutôt au milieu de ces deux types de logiques. Ouais, forcément, hein, l'idée, c'est de juste donner des tendances. Alors, donc, la question, c'est de savoir quels sont les arguments hein, auxquels les médecins vont faire appel pour accepter ou au contraire pour refuser l'utilisation de la technique qui est donc demandée, voire exigée par la patiente. Alors, deux grands types d'attitudes. Premier type d'attitude, donc, j'ai appelé une logique libérale. Alors, les médecins qui vont adopter plutôt cette attitude libérale, je précise tout de suite, ce sont plutôt des jeunes médecins, qui travaillent indifféremment dans les trois niveaux de maternité observés. Hein. Il n'y a pas d'effet ici structure. Hein. Mais ces médecins, très vite, ils vont se présenter comme des prestataires de services qui doivent répondre au mieux aux attentes du patient. Non seulement ils doivent répondre à la demande, hein, c'est comme ça qu'ils le formulent, mais surtout, ils s'interdisent de juger cette demande, hormis sur des critères, bien sûr, strictement médicaux. Hein. Donc, il y a bien l'idée ici que c'est bien la faisabilité de l'intervention hein, qui va être questionnée, mais jamais, on ne va jamais questionner ici le fait qu'elle soit souhaitable ou pas. Hein. Ça appartient à la patiente. Alors, bien sûr, c'est dans ce groupe de professionnels qu'on va avoir le plus de réalisations, de demandes de convenance. On a ici hein, ce qu'on appelle une médecine du désir, hein, donc qui répond effectivement au désir des patientes, avec l'idée que les progrès technologiques doivent pouvoir s'adapter aux exigences des femmes, et précisément d'ailleurs à la particularité de chacune. Donc, ça veut bien dire que chez ce type de praticien, hein, on peut tout à fait avoir affaire à un même médecin, hein, je pense à l'un que j'ai interrogé, je vous ai mis ensuite l'extrait d'entretien, ce même médecin qui, à la fois, va défendre une approche très démédicalisée de la naissance, hein, c'est par exemple quelqu'un, notamment, qui n'en réalise plus, mais qui a réalisé de nombreux accouchements dans l'eau, hein, vous voyez, une approche complètement différente, hein, en dehors de la technique, et en même temps, qui va totalement répondre à une demande de technique, notamment de césarienne, de la part de ses patientes. Alors, voici ce qu'il dit, hein, pour l'expliquer. Si une femme veut une césarienne, je lui propose, hein, je lui donne une césarienne. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. J'avais un haut taux de césarienne, alors que je faisais un nombre d'accouchements écologiques beaucoup plus élevé que certains de mes collègues, qui étaient plus invasifs. Ça les faisait rire, parce qu'ils disaient « Tu vois, l'écologie, ça peut faire quand même un bon taux de césarienne. » J'ai regardé rétrospectivement et j'ai vu qu'il y avait un bon tiers de césarienne qui étaient des demandes des gens. Je veux une césarienne parce que j'angoisse. Je ne suis pas psychanalyste et ce n'est pas moi, en 20 minutes tous les mois, qui vais régler leurs problèmes. Donc j'accède à leur demande. Pour moi, la césarienne, c'est un mode d'accouchement comme un autre. L'important, c'est que les femmes aient le choix. Alors, bien sûr, tous les praticiens n'ont pas cette position aussi tranchée, mais j'en ai rencontré un certain nombre qui partageaient en tout cas cette façon de pratiquer, cette façon de voir la médecine. C'est-à-dire qu'il y a l'idée forte chez ces praticiens que le patient doit être autonome dans ses décisions et que le rôle de la médecine est de lui proposer donc toute la palette des techniques existantes. Donc ici, bien sûr, la négociation est fortement possible. D'autant plus, d'ailleurs, là encore, tous ont bien signifié, ont bien fait le lien entre ces deux questions, d'autant plus aujourd'hui, dans un contexte médico-légal assez fort. Alors, deuxième type de réponse, qui est plutôt inverse, bien sûr, une position là plutôt morale. Alors, là, au contraire, la demande va être régulée par des normes fortes qui s'appuient sur la défense de l'intérêt général et la défense de l'intérêt professionnel. Les techniques ne sont pas à la libre disposition des patients et c'est le médecin qui doit décider d'y recourir ou non. Par exemple, ce médecin me dit, c'est le médecin qui fait faire les examens, ce n'est pas la femme qui le demande. Moi, je suis de cette génération. Alors, oui, bien sûr, forcément, on a affaire à une génération un peu plus ancienne, où il est hors de question que ce soit les gens qui demandent les examens. Vous pouvez faire part de vos souhaits, mais ce n'est pas aux gens de décider quels sont les examens qu'ils ont à faire, ou alors on change de métier. Alors, ici, la régulation de la demande repose bien sur deux principes. Deux façons de réguler les demandes que reçoivent malgré tout, bien sûr, ces professionnels-là. Soit le médecin va avoir recours directement au texte officiel, code de déontologie, les recommandations des sociétés savantes, etc., pour légitimer leur position et leur refus. Soit ils vont faire appel à leurs propres critères moraux ou expériences personnelles, de la même façon, pour légitimer donc leur décision. Alors, ici, l'autorité du médecin peut bien jouer dans les deux sens, c'est-à-dire que non seulement le praticien peut refuser une demande de technique, mais il peut aussi l'imposer contre l'avis ou le désir de la patiente. Donc, il y a bien l'idée ici qu'on va porter assez peu attention à la perception subjective des femmes à l'égard de telle ou telle technique, ou même à la médecine de convenance. Ici, il y a bien l'idée que on va faire tout ce travail de recueil des confidences, on va entendre les plaintes dans le collègue singulier, mais en tout cas, ça n'interviendra en rien sur l'expertise professionnelle. Le médecin, ici, se définit bien comme porteur d'une éthique, comme un garde-fou, comme un garant des valeurs morales de la collectivité, face donc à des patients qui voudraient pouvoir tout contrôler. Est-ce qu'il me reste un peu de temps ? Oui ? Alors, dernière idée pour terminer. Si on regarde bien là aussi, finalement, quand les femmes en parlent ou même quand les médecins en parlent, quand même malgré tout, même si vous voyez que les patientes utilisent et ont repris certaines de leurs des techniques à leur compte, eh bien, elles vont quand même expliquer que ces techniques présentent certaines limites. Alors, là encore, plusieurs écrits, plusieurs courants de pensée, je pense notamment aux écrits de Foucault ou de Illich, mais aussi plus récemment, des écrits plutôt venant de la psychiatrie, ont montré des effets pervers des techniques. Donc je ne reviens pas dessus, mais on va essayer de voir là, en tout cas, comment les femmes les expriment. Trois choses vont intervenir dans la façon dont elles expliquent, en tout cas. Elles vont dire que, en fait, ces techniques, elles vont prendre d'une part un caractère déterministe, puis ensuite on va leur reprocher finalement la réponse éphémère qu'elles apportent, et ensuite on va leur reprocher finalement d'avoir un caractère anxiogène assez fort. Alors, première idée, donc, l'idée déterministe. Donc là, c'est un auteur important pour la sociologie de l'innovation, Jacques Ellul, a bien montré qu'il existerait un déterminisme interne des techniques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire ici que, finalement, on n'aurait pas simplement affaire aujourd'hui à une multiplication des nouvelles technologies, mais plutôt, nous dit-il, à un système organisé. C'est-à-dire que tous les éléments des techniques sont en relation les uns avec les autres. C'est-à-dire, notamment dans le monde médical, que, en fait, si les éléments sont en relation avec les autres, dès lors que j'ai recours à une technique, ça va en entraîner une autre. C'est cette idée-là qu'il va développer. Alors, cette interdépendance entre les techniques, on la retrouve facilement dans la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement. Les exemples sont nombreux, je passe très vite, vous les connaissez mieux que moi. Un test HT21 peut entraîner la réalisation d'une technique particulière, il y en a plusieurs aujourd'hui, qui elle-même peut entraîner le recours à une ITG. Le déclenchement artificiel du travail, on sait que ça va favoriser plutôt le recours à la péridurale, qui elle-même peut plutôt favoriser la pratique d'une épisiotomie, etc. etc. Bon, voilà ce système en fait, technicien qui tournerait en boucle. Donc, il y a bien l'idée que chaque technique s'inscrirait en logique de la précédente, dans la logique de la précédente. Donc, chez les patientes, il y a l'idée forte que l'entrée dans ce système technique, dès lors que j'ai commencé par une technique, finalement, je suis obligée de subir les autres, pour elle, est vécue et décrite de la façon comme une sorte d'engrenage, finalement, auquel elle n'arriverait plus à échapper. Et une des principales difficultés que relèvent les femmes, c'est que très souvent, elles ignorent que l'une va entraîner l'autre. Et c'est ça qu'elles vont faire porter la critique principalement. On voit bien que ces technologies et donc les conséquences qu'elles peuvent avoir vont jouer un rôle prépondérant dans l'expérience de la maternité. Et d'ailleurs, et ça c'est un effet quand même important que j'ai pu relever, c'est que à chaque fois que le médecin donc va prescrire une technique, qui va en entraîner une autre, qui va en entraîner une autre, les femmes vont avoir tendance donc à définir elles-mêmes leur grossesse comme pathologique. D'accord ? C'est-à-dire que plus, finalement, on va avoir recours à la technique, et vous voyez le système pervers, puisqu'elles attendent, finalement, d'y avoir recours, et en même temps, plus on y a recours, plus elles vont définir pour elles qu'on a bien affaire à une grossesse à risque. Deuxième point que j'ai évoqué, c'est que si la technique, effectivement, a le pouvoir de rassurer les femmes sur ce qu'elles vivent, on a vu que les médecins l'utilisaient beaucoup dans ce sens-là, le problème, c'est que ce pouvoir de réassurance n'intervient que sur un temps court, sur un moment précis. D'ailleurs, la plupart des femmes le disent bien, elles disent qu'elles auraient elles auraient aimé pouvoir multiplier, notamment le nombre d'échographies, pour être rassurées. Là encore, sur la normalité de l'enfant. Le problème de la technique, c'est que le sentiment de sécurité apporté est éphémère. Et donc, on voit bien comment l'introduction des techniques dans ce suivi va finalement avoir pour effet de donner une histoire découpée en séquences pour ces femmes. Et très vite, d'ailleurs, elles décrivent leur expérience de la maternité comme rattachée à des moments techniques. C'est-à-dire qu'elles vont dire, ça effectivement, je m'en souviens parce que précisément j'avais réalisé tel et tel examen à ce moment-là. Donc il y a bien l'idée qu'en fait la technique viendrait donner des points de repère, fonctionnerait finalement comme des marqueurs historiques de l'expérience des femmes. Et puis troisième point important de ces techniques, c'est que finalement elles angoissent. Alors qu'elles sont là pour rassurer, elles vont venir finalement plutôt angoissées. Et ce qui angoisse les femmes, c'est comme ça qu'elles le disent en tout cas, c'est parce que finalement elles développent l'idée, parfois d'ailleurs totalement erronée, que la technique est utilisée à des fins qui leur échappent. Ça, c'est une idée très forte qu'on retrouve chez beaucoup de femmes. L'idée que, là encore, à chaque fois que l'on va multiplier les examens, alors précisément aussi parfois parce qu'elles manquent d'informations sur pourquoi sont réalisés les examens, sur leur enchaînement, elles vont donc développer cette idée que c'est quelque chose qu'elles ne maîtrisent plus et qui finalement pourrait se retourner contre elles. Il y a cette idée assez forte qui va intervenir, et là encore, qui va venir leur faire définir leur grossesse comme quelque chose qui finalement serait pathologique. Bon, par exemple, je cite cet excellent entretien d'une femme qui a connu une grossesse totalement physiologique, sans aucun problème, et qui me dit « L'inconvénient des techniques, c'est qu'on peut découvrir certaines choses qui vont nous inquiéter et qui vont faire de la grossesse un enfer parce qu'on se demande si tout va bien se passer, si l'enfant est normal. Finalement, moi, je peux dire que j'ai eu une grossesse pathologique. » Alors qu'elle n'a en rien, finalement, vécu une grossesse d'ordre pathologique. Alors pour terminer, on peut dire qu'aujourd'hui, on assisterait à un fort consensus social autour des biotechnologies. Effectivement, on retrouve bien cette idée que les femmes et les médecins pensent qu'il faut avoir recours aux techniques possibles et à toutes les techniques possibles pour améliorer, pour s'assurer des chances de survie et de la bonne santé de l'enfant à venir. Toutes les parturientes que j'ai rencontrées, alors bien sûr, celles qui choisissent d'accoucher à domicile sont tout à fait dans une autre façon de penser la maternité, mais celles que j'ai rencontrées à l'hôpital portent quand même en majorité un regard médicalisé sur la maternité et participent donc directement à la culture technique. Donc, on retrouve bien l'idée que les femmes auraient intériorisé la définition médicale, finalement, de la naissance, comme un événement qui peut être risqué et que l'on ne pourrait maîtriser, finalement, qu'en s'entourant de différentes technologies médicales. Cependant, et c'est ce que j'ai essayé de montrer, s'il y a un consensus, on voit que les acteurs, et notamment ici les femmes, vont avoir des attentes différentes à l'égard de ces techniques. Elles vont développer des attentes diverses, qui vont se différencier de celles des médecins. Et certaines vont arriver à détourner, finalement, ces techniques, ces instruments, de leur objectif premier. Tout se passe en fait comme si une partie de la définition scientifique de l'usage des technologies échappait aux acteurs compétents et qui sont à l'origine même de l'offre technologique. Donc il y a bien l'idée ici que le sens finalement subjectif que les femmes accordent à la technologie, aux techniques, supplante d'une certaine façon la rationalité des scientifiques, la rationalité médicale. Alors, on l'a vu aussi, les médecins, alors aussi parce qu'ils sont soumis à des pressions d'ordre médico-légal, aussi parce que certains vont développer une plus ou moins grande ouverture à la demande sociale, ils vont accepter, certains vont accepter de répondre à ce nouveau type d'exigence. Mais je voudrais conclure là-dessus, il y a vraiment bien l'idée, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans cet exposé, que si la technique est la réponse qu'on donne aux femmes face à leur angoisse, c'est aussi bien la seule qu'elles acceptent aujourd'hui. Je vous remercie. Oui, tout à fait. Alors, voilà. Pas toutes, on sent que c'est quelque chose qui est en train de monter, qu'il faudra certainement revoir dans quelques années, pour voir s'il s'agit seulement finalement d'un mouvement éphémère ou quelque chose qui va perdurer. Mais, et c'est vrai, notamment quand on établit ces statistiques, on renvoie toujours finalement la faute vers le personnel médical, soit proposerait trop de césariennes, alors aussi pour des convenances personnelles, parfois c'est le type d'argument qu'on peut entendre, pour des questions là encore médico-légales, c'est-à-dire que pour se couvrir finalement d'un risque, on aurait tendance à surprescrire. Mais on oublie que parfois la demande devient des femmes, complètement. Je ne vais pas avoir de solution, Moi, j'étais assez surprise, hein. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de résultat. Je pensais vraiment que les femmes allaient me dire, eh bien, de toute façon, on n'a pas le choix, on va à l'hôpital, on nous impose des techniques et une façon de faire, une façon de voir la maternité.
Non,
et en fait, voilà. Et en fait, on se rend compte que, alors, elles sont socialisées à cette idée de risque. Voilà, comment agir sur le processus de socialisation et d'acculturation ? Là, on est à un autre niveau.
À une époque, j'avais fait une enquête sur qui avait accès au scanner, à une époque où le scanner était contingenté. Ça se recrute partout chez les mêmes, je sais pas, c'est les ouvriers, hein, chez les pauvres. Hein. C'est tous des niveaux socioculturels élevés qui sont capables de lire, d'interpréter. Et tant mieux, ils sont capables de lire, d'interpréter. Et c'est eux, ce sont eux qui demandent. C'est ceux qui terrorisent la médecine. Et non pas l'inverse.
Ils ont une capacité de négociation, effectivement, dans la relation médicale qui fait toute la différence. Oui, ben, dès lors que le risque est présent, hein, de toute façon, dès lors que le risque est évoqué par le médecin, l'idée même de pouvoir négocier ou de refuser n'existe plus. C'est plus possible.
Ça, c'est sûr.
Parce que le risque présenté est trop fort. Et là, précisément, en plus, le risque s'adresse à un individu à venir. Donc,
elles
il est d'autant plus
ça,
fort.
Ça, c'est sûr, elles n'ont plus le choix.
Voilà,
ça,
elles n'ont plus le choix. Ça, c'est présent. Bon, là, ce n'est pas présent dans la présentation, puisque j'ai mis l'accent sur la technique. Donc, j'ai voulu montrer, au contraire, celle qui s'emparait de cette idée. Mais notamment dans les maternités de niveau 3, on a des patientes alors, qui ont un discours un peu ambivalent, comme vous le dites. Hein, c'est-à-dire qui disent « je viens là, mais il n'est pas question que je revive la même expérience que j'ai vécue la première fois ici », alors qu'elles reviennent précisément dans la même maternité avec le même médecin. Hein, c'est ça qui est assez extraordinaire. « Je ne me laisserai pas faire sur telle et telle technique que l'on va m'imposer, etc. » Et en même temps, elles disent bien dans un autre discours « mais je viens là aussi parce que je veux être rassurée sur les risques ». Voilà. Donc ça, c'est très présent, oui, bien sûr. Cette ambivalence est très, très forte. Oui.
Non, moi, je trouve que... c'est très intéressant hein, votre travail, mais moi, en tant que sage-femme depuis 30 ans, je retrouve pas les patientes que l'on a tous les jours. On les voit trop, la plupart quand même, quand on leur dit on va vous faire une césarienne pendant le travail, considérer cette césarienne comme vraiment l'échec, ne pas être arrivé
bien
au
sûr.
Bout, etc. Donc oui, je pense que c'est une étude qualitative avec forcément, je pense que sur le type 3, ben, sûrement biaisé parce que c'est là où viennent les pathologies. Et que sur le coup, ben c'est en général, hein, le recrutement, bon, il n'y a pas que ça, mais voilà. Enfin, moi, je...
Attention.
Sûrement qu'il y a des patientes, mais de là, enfin, j'ai l'impression en écoutant que...
Un micro-point du travail,
ouais.
Et j'ai insisté précisément, j'ai d'ailleurs sur ce que j'ai écrit sur la technique, j'ai enlevé beaucoup de choses pour essayer de montrer aujourd'hui comment certaines arrivaient à s'emparer même de l'idée de technique.
Ouais.
C'est tout. Bien sûr, il y a toutes les autres qui vivent cet accouchement par césarienne comme un échec. On en rencontre énormément.
Oui.
Oui, bien sûr, ça n'enlève pas...
Oui, bien sûr.
Voilà.
Maintenant,
là,
la spécificité de la France, comparée à d'autres pays européens, par exemple, c'est qu'on considère ici la grossesse comme à risque, jusqu'à preuve du contraire. Dans les autres pays, on va considérer la grossesse comme physiologique, tant qu'il n'arrive pas à une pathologie. Et c'est vrai que ça, ben, quand vous parlez de cette culture sociale qu'on inculque, même nous dans les écoles, il y a quand même une forte empreinte de tout ce qui est la pathologie, du stress, du médico-légal. D'emblée, on fait peur aux étudiants quand ils vont être diplômés, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose que, dans notre pratique, on retrouve tous les jours, malheureusement, parce que... Sur le coup, ben, on voit où est-ce qu'on en arrive, hein, des fois. Pour moi, c'est une situation extrême.
Là, ce qu'on voit, c'est que les patientes elles-mêmes ont intégré cette culture.
Ouais.
Voilà. Bon, moi, c'est ça qui m'a la plus étonnée dans l'enquête. Hein. Alors, bien sûr, j'ai rencontré beaucoup de patientes qui étaient très critiques par rapport à ce suivi.
Hein. Ah oui. Non, mais en plus, je pense que faut quand même... Enfin, je crois quand même qu'on revient un petit peu sur tout ça. Enfin, je crois que... Ce qui fera peut-être la différence aussi, c'est que les sages-femmes aussi puissent un petit peu plus prendre la parole. Parce que jusqu'à présent, en France, dans tout ce qui est politique de périnatalité, la sage-femme n'est pas beaucoup inscrite au milieu de tous les professionnels. Donc, on l'a abandonnée. Il faut dire qu'on nous l'a pris aussi, petit à petit. Là aussi, ça serait intéressant de faire une étude. Mais... Vous savez, voilà, quand on est dans, on travaille dans, à l'hôpital, l'hôpital, 80% des sages-femmes, on est, malgré tout, même si on est autonome dans notre activité, on est quand même sous l'autorité dans notre activité médicale, alors qu'on devrait être, voilà, être à l'égal tant qu'il s'agit de la physiologie. On le voit ici tous les jours, hein, les patientes en grossesse physiologique, ça a été démontré. Quand elles accouchent dans une maternité de type 3 par rapport à une maternité de type 1, il y a plus d'extraction instrumentale, il y a, etc. Parce que justement, comme le corps médical est là présent, ils sont beaucoup plus, eux aussi, à regarder ce qui se passe. Alors que lorsqu'ils sont absents, eh bien, la sage-femme mène le travail comme elle pense qu'il est bien. Et sans, voilà, hein, pardon ? Ben, pour l'instant, ben, malheureusement... pour l'instant en France toujours pas, hein. Ça a été retiré, donc par contre effectivement en Belgique, Hollande, etc. Bon, alors après évidemment dès qu'un texte paraît, par exemple sur la Hollande, quand ils ont parlé de maison de naissance là dernièrement, enfin en tout cas de, voilà, de, ils nous ont ressorti un texte, nous tout de suite ça a circulé sur les messageries, nos messageries quoi, les, on a reçu cette étude qui a été faite pour montrer qu'aux Pays-Bas ils avaient par rapport aux maisons de naissance beaucoup plus de morbidité. En fait, il faut voir aussi dedans la sélection. Enfin, c'est toujours pareil, on va utiliser une étude, etc. Donc, ça fait tout de suite peur, les gens n'osent pas. Enfin, voilà. Mais bon, ça, c'est le propre de la France. Hein.